Le journal de la culture, Matteo Caranta.
Bonjour Matteo Caranta.
Bonjour Olivia.
Au menu de ce journal de l'opéra baroque, un général napoléonien exhumé, des jeux vidéo en guerre, de la musique et de l'art de la rue exposé au Palais des Papes d'Avignon.
Ce que je propose, c'est un lieu avec son histoire. La présence de mes images dans une rue viennent en quelque sorte révéler la rue. Mes images naissent de l'appréhension de l'histoire que portent les lieux. Et au fond, en quelque sorte, mon œuvre, c'est la rue elle-même avec son histoire que je propose.
Ah, c'est lui.
La voix d'Ernest Pignon. Ernest, à votre micro, Olivia, en mai dernier. Et maintenant, les murs, les parois des murs gothiques du Palais des Papes sont couvertes depuis le 29 juin des pochoirs et de ses dessins, de ses croquis. Le modeste inventeur du street art, celui qui dit ne pas faire des œuvres en situation, mais faire œuvre des situations, a engagé ces 50 dernières années un travail autant poétique que politique à travers le monde. Ainsi se côtoient la Pietà africaine et une Pietà pasolinienne, l'une posée sur les murs de Soweto, l'autre debout à Scampia dans la banlieue de Naples. Pasolini et les poètes font partie intégrante de ses obsessions. L'italien n'est jamais loin de Rimbaud qui converse avec Artaud, Neruda, Darwish ou Genet. Ses pochoirs en noir et blanc dépeignent des situations quotidiennes et Ernest Pignon, Ernest, longtemps ignoré par les critiques d'art et les musées, touche désormais un grand public avec qui il peut se souvenir des fusillés de la Commune ou des pendus de la prison de Saint-Paul à Lyon. L'exposition Ecce Homo, voici l'homme, en référence à Ponce Pilate portant le Christ aux épines, est en Avignon jusqu'en février 2020.
Archéologie maintenant, Matteo, avec la découverte du squelette du général Gaudin, un fidèle de Napoléon, mort en 1812 pendant la bataille de
Smolensk. C'est une histoire qui ferait blêmir Indiana Jones, Olivia, blêmir d'envie et que raconte Le Point. D'abord, des fouilles menées sur un terrain de bataille où 14 000 soldats sont morts dans des combats qui finirent souvent au corps à corps. Ensuite, une expédition qui mélange à l'équipe scientifique de l'archéologue Frédéric Lemaire, un ancien membre de la Légion proche de Jean-Marie Le Pen et un vétéran de la guerre en Afghanistan. Enfin, un terrain, à Smolensk donc, où s'accumulent sur le charnier napoléonien les cadavres de l'autre grande guerre russe, celle menée contre les nazis. Ici, les uniformes des grognards napoléoniens se mélange aux insignes SS et aux casques de l'armée rouge. Mort dans les bras de Napoléon, après avoir été fauché par un boulet en descendant de son cheval, le squelette du général Gaudin doit maintenant voyager en Allemagne pour y être étudié.
Bon, autre actualité de ce journal pendant qu'il fait le voyage, ce squelette, c'est l'impact des relations internationales sur l'industrie du jeu vidéo.
La première industrie culturelle au monde est ébranlée par la guerre commerciale qui sévit entre les États-Unis et la Chine. Depuis que Donald Trump a augmenté unilatéralement les taxes sur les importations chinoises, les trois mastodontes du secteur, Sony, Nintendo et Microsoft, se seraient décidés, selon les échos, à cesser de produire leurs consoles de jeux en Chine, où se situe 90% de la production du secteur. Mario et ses amis refusent de payer de nouveaux droits de douane et Nintendo a annoncé hier que sa nouvelle console serait produite au Vietnam. Une victoire pour les Américains qui apprécie la tournure que prend ce jeu politique, malgré la trêve momentanée décidée entre les deux pays à l'issue du dernier G20.
En bref, le Sénat a voté hier la création d'un Centre National de la Musique, le CNM.
Et oui, ça fait presque 10 ans que l'on en parle, et le presque devenu une arlésienne, et le chantier devrait finalement voir le jour en 2020. Le CNM devrait être l'équivalent du CNC, le Centre National du Cinéma, et rassembler les centres et fonds existants pour la musique. Il devrait être financé par une taxe sur les spectacles et constituer le moteur d'un nouveau rayonnement culturel, un soft power à la française.
Alors ce qui est bien avec vous, Matteo Caranta, c'est que chaque jour vous nous amenez sur les routes d'un festival. Aujourd'hui, vous avez choisi de faire une halte à Beaune et son festival d'opéra baroque.
Le Festival Bourguignon est un festival de contre-ténors, ces voix éthérées, presque surhumaines, qui évoquent les castrats, comme celle que vous venez d'entendre de Philippe Jaroussky, chantant le larghetto en bramaïfou. C'est aussi une rencontre qui met presque un point d'honneur à jouer sur Handel, allemand, italien et anglais à la fois, dont 3 oratorios seront joués cette année. Mais c'est aussi un festival où les chefs d'orchestre sont mis en avant et font leurs preuves. La directrice artistique Anne Blanchard nous en dit un mot, on l'écoute.
En fait, on continue notre... ce qu'on fait depuis le début, c'est-à-dire mettre en valeur des compositeurs, des œuvres, et des chefs. Alors des chefs depuis, c'est le 37e festival cette année, depuis donc 36 ans, de nombreux chefs se sont succédés à Beaune, donc on a toujours des chefs emblématiques de l'histoire du festival. Et nous avons également des chefs de la nouvelle génération. Donc après Rousset, Haïm, Rohrer, Noali, c'est donc le petit Valentin Tournet, ou le grand Valentin Tournet, parce qu'il est très grand en plus, qui fait son apparition au Festival de Beaune, et on lui confie, comme aux autres auparavant, un opéra. Et cette année, ce sont les Indes Galantes, dans la version de 1761, avec trois entrées seulement.
Alors avant les Indes Galantes, le week-end prochain, ce week-end, trois rendez-vous, le Dixit Dominus d'Endel, le récital du contre-ténor Damien Guillon et l'opéra de Lully Isis.
Et les rencontres de Beaune se tiendront jusqu'au 28 juillet. Merci beaucoup Matteo Carantin.
Merci Olivia, à demain.